Au Mali, une nouvelle constitution anti-occupation se mettrait-elle en place? Selon un décret présidentiel publié vendredi soir, une commission chargée d'élaborer une nouvelle constitution a été mise en place. Elle a un délai maximal de 2 mois pour déposer son rapport. Les autorités de la transition continuent les réformes politiques engagées pour organiser les prochaines élections. Et selon un décret présidentiel publié vendredi soir, une commission chargée d'élaborer une nouvelle constitution a été créée. Il est créé auprès du président de la transition, donc une commission de rédaction chargée d'élaborer un avant-projet de loi portant constitution de la République du Mali dans le cadre de la refondation de l'État. Peut-on lire dans le décret, dans son article premier, dans le cadre de sa mission, la commission peut faire appel à des personnes ressources. Elle consulte l'ensemble des forces vives de la nation, a précisé le décret. À la fin de sa mission, qui n'excédera pas 2 mois, la commission remettra donc au président de la transition un rapport de fin de mission et l'avant-projet de constitution. Après le coup d'État de 2020, le gouvernement malien s'était engagé dans plusieurs réformes avant l'organisation d'élections. Ainsi, un référendum sur l'adoption d'une nouvelle constitution avait déjà été prévu en 2021. Ce référendum devrait permettre de réviser la constitution de 1992, dont la modification sous le mandat de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta s'était heurté à des manifestations populaires. Alors qu'un gouvernement de transition est à la tête du pays depuis le coup d'État de 2020, les nouvelles autorités espèrent obtenir l'assentiment de la classe politique et de la population pour réformer la Constitution. Après l'annulation des accords de défense avec la France, beaucoup se demandent si cette nouvelle Constitution ne visera pas également la MINUSMA. La République démocratique du Congo et le Rwanda sont dans un affrontement militaire dans l'est du pays. La résurgence des attaques dès la rébellion du M23 est au cœur du froid diplomatique entre Kigali et Kinshasa. Le dernier fait en date est l'accusation portée par les forces armées de la République démocratique du Congo contre l'armée rwandaise. Le Rwanda a déployé dans les environs de Tchanzu 500 militaires des forces spéciales, tous habillés d'une nouvelle tenue de couleur vert-noir et coiffé des casques de sa force spéciale, dénonce le communiqué des FARC qui met en cause l'activisme brumeux du Rwanda à sa frontière est. C'est une accusation directe avec des éléments de preuve que le Rwanda n'a pas encore nié, encore moins son soutien au M23. Pire encore, les terroristes du M23 soutenus par le Rwanda, leur mentor naturel, se sont intentionnellement attaqués à la MONUSCO à Mouati, non loin de Bikenge, dans le groupement de Djomba en territoire de Rutshuru. Pourtant, la force de la MONUSCO est en plein exercice de sa mission conformément au mandat du Conseil de sécurité des Nations Unies, ajoute le communiqué. Dernièrement, c'est le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, qui a accusé le Rwanda de cornaquer, donc les rebelles du M23, que la RDC avait pourtant vaincu en 2013. Selon lui, il n'y avait aucun doute sur le soutien tacite et maintenant officiel du Rwanda au M23. Les soldats congolais donc avaient avancé aussi dans un communiqué l'arrestation de 2 militaires rwandais dans l'Est et l'Union africaine appelle toujours au calme. L'ambiance est devenue plus hostile entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Les deux pays s'accusent mutuellement d'attaquer armés. Donc, et risque d'user la manière forte pour régler leurs différends si rien n'est fait à l'échelle internationale pour une désescalade rapide. Depuis des lustres, donc les relations diplomatiques entre le Rwanda et la RDC sont tachées d'imperfections. Kinshasa accuse couramment Kigali de soutenir militairement des groupes armés qui tentent de le déstabiliser. Ces dernières semaines, les tensions qui se sont particulièrement accrues présage de mauvais temps pour les deux parties. Il y a quelques semaines, le Congo a accusé le Rwanda de soutenir militairement des rebelles du M23 et la RDC y est allée loin, déclarant avoir capturé 2 soldats rwandais parmi les rebelles qu'elle combattait donc dans l'est du pays à quelques kilomètres de Goma, près de la frontière avec le Rwanda. La réponse de Kigali a été catégorique. Le pays de Paul Kagame a balayé d'un revers de main les accusations du pays voisin. Malgré l'intervention du président en exercice de l'Union africaine qui appelle au calme et au dialogue pour une issue pacifique, la tension ne s'affaiblit pas, donc les deux protagonistes étant restés campés sur leur position. Entre le Rwanda et la RDC, le langage diplomatique et la présomption d'innocence semblent avoir disparu, laissant désormais libre cours à une verve franche et mordante. Les deux pays s'accusent officiellement et sans commune mesure de graves agressions armées. Mercredi, Kinshasa a accusé le Rwanda d'avoir déployé 500 soldats des forces spéciales sur son sol. Deux jours plus tard, l'armée congolaise a déclaré que le Rwanda a tiré une dizaine de bombes vendredi à l'aide d'un canon à longue portée sur le territoire congolais et causé la mort de deux enfants dans l'est de la RDC. Ces bombes tirées à plus de 22 km à partir du territoire rwandais ont explosé à Biruma et Kabaya, localités situées dans le territoire de Rutshuru, province du Nord Kivu, a détaillé l'armée congolaise dans un communiqué ajoutant que les bombes ont tué deux enfants de sexe masculin et blessé un autre. Dans la même journée, l'armée rwandaise a accusé donc les forces armées de la République démocratique du Congo d'avoir tiré deux roquettes sur l'est du Rwanda, indiquant que les tirs sont partis de la zone du Bunagana en RDC et ont atteint donc ce vendredi 10 juin à 11h55, Nyabigoma, dans le district de Musanze, et il n'y a pas eu de victimes, mais la population locale est terrifiée, ajoute l'armée rwandaise. Conscient de la gravité de la situation et des conséquences que pourrait engendrer un conflit régional entre Kigali et Kinshasa, les pays de l'Est se sont engagés à trouver une solution le plus rapidement possible afin d'éviter que la situation ne tournasse au désastre. Réunis en sommet à Goma en RDC, les pays membres de la communauté et des États d'Afrique de l'Est ont discuté mardi des modalités de mise en place d'une force régionale destinée à éradiquer les forces négatives qui écument l'Est de la RDC. Le Rwanda étant absent à ce sommet sous-régional, une prochaine réunion aura lieu donc du 15 au 19 juin prochain dans un pays neutre, à Nairobi, au Kenya, pour que Kigali puisse y participer. De son côté, l'Union africaine qui appelle au calme a désigné le président angolais João Lourenço comme médiateur dans cette crise diplomatique. Et dans ses missions de bons offices, le président donc Lourenço organisera incessamment à Luanda un sommet auquel seront conviés ses homologues de la RDC et du Rwanda. L'objectif de ce sommet annoncé est de régler les divergences qui persistent entre le Rwanda et la RDC et travailler à consolider la paix entre les deux pays. Dans une déclaration faite par le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères, la RDC recadre le Rwanda sur ses accusations sur une prétendue attaque des FARC sur son sol. Le ministère des Affaires étrangères a pris connaissance avec indignation de la lenteur de la note verbale du 10 juin du gouvernement de la République du Rwanda par laquelle ce dernier accuse les forces armées de la RDC d'avoir lancé le 10 juin des roquettes sur le territoire rwandais. Accusé en outre donc des hauts responsables gouvernementaux et des membres des organes de sécurité congolais d'inciter la population à commettre des actes de violence contre le Rwanda et les personnes parlant le Kinyarwanda, donc en général. Le ministère des Affaires étrangères rejette en bloc toutes ces accusations fallacieuses qui cachent mal donc la détermination du Rwanda de poursuivre l'agression contre la RDC et leur soutien au M23. Le ministère rappelle la teneur de la communication officielle des FARC en date du 10 juin par laquelle donc les forces armées congolaises ont informé l'opinion nationale et internationale de ce que depuis 16h45 donc du vendredi 10 juin, l'armée rwandaise a tiré une dizaine d'obus sur le territoire de la RDC, plus précisément à Biruma et Kabaya, en territoire Rutshuru, détruisant l'Institut Saint-Giberti, tuant deux enfants âgés de 6 et 7 ans respectivement et blessant un troisième. En plus du bilan humain, le bombardement de toute une école constitue à la fois un crime de guerre et un crime contre l'humanité. L'ignoble soutien continu de l'armée rwandaise au groupe terroriste du M23 est confirmé par les images des drones qui attestent l'occupation jusqu'à ce jour de Tchanzu et de Runyoni par les forces de défense du Rwanda. Le gouvernement de la République démocratique du Congo somme le gouvernement de la République du Rwanda d'une part de mettre fin à son soutien au groupe terroriste du M23 et de s'abstenir de toute action susceptible de porter atteinte à la paix et à la stabilité dans la partie est de la RDC et la région, et d'autre part d'éviter tout acte de nature à compliquer la tâche du médiateur de la Conférence internationale pour la région des Grands Lacs, le président Lorenzo, à qui toutes les parties concernées doivent faire confiance. Au Mali, on sent les derniers souffles de Macron. À l'occasion du séjour à Paris du président sénégalais Macky Sall, le chef d'État français Emmanuel Macron a reçu son homologue à l'Élysée et les deux dirigeants se disent très convergents sur le fait que Wagner est la garde prétorienne d'un régime qui a pour premier objectif de se protéger, a déclaré l'Élysée. Le président français Emmanuel Macron n'a toujours pas dit son dernier mot après son bilan militaire et diplomatique catastrophique au Mali. Suite à l'autodétermination des peuples maliens de se prendre eux-mêmes en charge et de trouver par eux-mêmes les solutions à leurs problèmes politiques et sécuritaires, les relations franco-maliennes se sont totalement dégradées. Mais l'Élysée, encore dans la nostalgie des années impérialistes, pense encore pouvoir rattraper le coup. Lors d'une visite à l'Élysée, le 10 juin, le président sénégalais a échangé avec son homologue français sur la question du Mali. Et pour Emmanuel Macron, il faut à tout prix maintenir la pression sur les autorités de la transition à Bamako. Car plus le temps passe, plus elles éliminent ses opposants et plus elles s'installent dans le confort relatif qui va avec la protection que lui apporte Wagner, a expliqué la présidence. Pour Emmanuel Macron, qui n'a jamais digéré la rupture définitive entre Paris et Bamako, Wagner serait la garde prétorienne d'un régime qui a donc pour premier objectif de se protéger. Idée également partagée par son homologue sénégalais, donc qui préside actuellement l'Union africaine. Les deux chefs d'État ont partagé leurs préoccupations sur la manière de faire des soldats russes et notamment les crimes qu'ils commettent dans le pays. Il faut que Wagner parte du Mali selon la présidence française. Les intérêts de Paris sont au-dessus de ses convictions. En réalité, l'intervention française au Mali qui date de 2013 et qui présente des résultats très très mitigé n'a permis en rien d'éliminer la menace terroriste dans la région. Mais depuis l'arrivée au Mali de partenaires russes, Paris, voyant la rupture totale entre les deux capitales, cherche par tous les moyens à discréditer les efforts menés par l'armée malienne. Emmanuel Macron, qui a toujours appelé les autorités actuelles par le vocable de junte, a pourtant apporté son soutien à la succession dynastique en cours au Tchad après la mort du président tchadien Idriss Déby, décédé dans des circonstances assez obscures. Au Tchad, pour servir ses intérêts militaires, Emmanuel Macron a ainsi supporté un régime qu'il pouvait appeler illégitime, mais au Mali, il parle de junte et de pouvoir autocratique en insistant sur un transfert de pouvoir aux civils. Pourquoi le discours du colon moderne change d'un pays à un autre ? Alors qu'en réalité, l'armée malienne continue donc sa guerre contre le terrorisme. L'armée malienne a annoncé samedi avoir neutralisé 18 terroristes au cours des opérations menées dans les régions de Banyagara et Douensa dans le centre du pays. Les forces armées maliennes ont ciblé avec des frappes aériennes des refuges des terroristes dans le centre du pays. L'offensive surprise a fait une dizaine de morts, dont 3 chefs actifs dans le rang des terroristes. Sur la base de renseignements, des actions aéroterrestres dans la région de Bandiagara ont fait donc le bilan suivant. 3 refuges terroristes démantelés, des armes, munitions et matériel de fabrication, d'engins explosifs improvisés détruits, des matériels civils volés aux populations récupérées, 13 terroristes neutralisés, dont 3 chefs actifs, à savoir Moussa Sangaré, alias Emerana, Younoussa Sangaré et Boubari Sangaré, comme l'indique le communiqué des FAMA. Dans la région de Touenza, 5 terroristes jalonnant une mission dans la zone de Serma ont été neutralisés et leurs armes et motos récupérées. Des frappes aériennes ont ciblé le samedi 11 juin 2022 des refuges terroristes dans la région de Nara et la zone du Baoulé, donc, dont l'exploitation est en cours dans le sud du pays, comme l'informe le communiqué. Selon la déclaration du chef d'état-major de l'armée malienne, 168 terroristes neutralisés et 37 autres ont été interpellés et une quantité d'armes et véhicules ont été saisis au cours du mois de mai 2022 dans le centre et le sud du pays. En d'autres termes, Macron n'est toujours pas prêt visiblement à voir que les FAMA, à eux seuls, apportent un bien meilleur bilan en quelques mois dans la lutte contre le terrorisme qu'en 10 ans avec la présence de Barkhane et de la MINUSMA. Voici ce qui dérange le plus Macron et sa bande.
Dix-huit terroristes, dont trois chefs actifs, ont été tués par l'armée malienne au centre du pays entre le 4 et le 11 juin, a annoncé la direction de l'information et des relations publiques des armées du pays dans un communiqué publié samedi soir. Dans un premier temps, 13 terroristes ont été tués à la suite d'actions aéroterrestres menées dans la région de Bandiagara. Ces opérations de l'armée malienne ont également permis de détruire des refuges terroristes, de saisir des armes de guerre et du matériel de fabrication de mines artisanales, selon la même source. Dans la région de Douentza, toujours au centre du pays, les forces armées maliennes ont tué 5 autres terroristes, a fait savoir la direction de l'information et des relations publiques des armées, ajoutant que cette opération avait par ailleurs permis d'arrêter 8 personnes suspectées d'activités terroristes. La Côte d'Ivoire s'est dotée d'un plan national de développement sur la période 2021-2025 évalué à 59 000 milliards de francs CFA, dont 74% doivent être financés par le secteur privé. En vue de capter les financements des partenaires institutionnels et privés, le gouvernement organise, sous la présidence du chef de l'État Alassane Ouattara, un groupe consultatif dont l'objectif est de mobiliser 9 335,6 milliards de francs CFA le 15 juin 2022, Sofitel Abidjan Hotel Ivoire. Organisé avec l'appui de la Banque africaine de développement, la Banque islamique de développement et du système des Nations unies, ce groupe consultatif sur le plan national de développement vise à partager avec tous les partenaires la vision de la Côte d'Ivoire contenue dans le plan national de développement 2021-2025. Au Burkina Faso, un projet de soutien alimentaire aux élèves améliore la qualité de l'éducation. Financé par le Japon et administré par la Banque africaine de développement, ce projet de 990 000 dollars renforce les initiatives du gouvernement visant à assurer aux élèves au moins un repas équilibré par jour. Lancé en 2020 pour une durée de 2 ans, prorogé ensuite d'une année, le projet aide les écoles à installer des champs et des jardins et les dote en matière agricole. Ce projet vise à améliorer la qualité nutritionnelle des repas. Au cours du premier trimestre de cette année, 140 cantinières ainsi que les 70 directeurs d'école ont pris part à des formations sur la transformation des produits locaux et l'hygiène alimentaire dans les cantines scolaires. Huawei va soutenir la transition énergétique verte du Kenya. Le géant chinois de la technologie Huawei veut aider le Kenya à intensifier l'adoption de l'énergie verte et à accélérer la croissance à faible émission de carbone. Victor Kouyé, directeur exécutif du développement commercial chez Huawei Kenya, a affirmé que le pays d'Afrique de l'Est disposait d'abondantes sources d'énergie renouvelable telles que l'énergie solaire, géothermique et éolienne qui peuvent être utilisées pour accélérer la transition vers une économie verte. Monsieur Kouyé a fait remarquer qu'il existait actuellement une énorme demande au Kenya pour l'utilisation de l'énergie solaire dans les secteurs commercial et industriel. Nous disposons de systèmes avancés de stockage de l'énergie qui constituent des solutions de rechange aux machines fonctionnant au diesel, a fait remarquer M. Kouyé.